c'est le temps qui fait la panique.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC.
Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences.
Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Okapi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est le temps qui fait la panique. Votre émission qui alerte sur la prolifération des discours dangereux en République démocratique du Congo. Chaque semaine, dans ce magazine, nous analysons l'impact des mots, des discours et du langage sur notre société. Aujourd'hui, nous parlons du langage patriotique, un thème qui fait écho à la situation de notre pays sur fond de crise sécuritaire dans l'Est, Babel.
Oui, Pauli, le patriotisme, c'est ce sentiment d'attachement, de fierté, de dévouement envers son pays. Un patriote aime son pays, il respecte ses valeurs, ses institutions, son histoire, sa culture. En période de crise comme celle que traverse l'Est de la RDC avec la rébellion du M23, la fibre patriotique est titillée dans les campagnes médiatiques, les discours politiques et même dans les conversations de tous les jours.
Effectivement, Babel, hein, le patriotisme par essence est une force positive. Il pousse les citoyens à se mobiliser pour le bien de leur pays, à défendre les intérêts nationaux, qu'ils soient politiques, culturels, sportifs, économiques et même sécuritaires. Mais poussé à l'extrême ou manipulé, le langage patriotique peut mener à des dérives, comme on a pu le voir en Allemagne nazie sous le règne d'Adolf Hitler.
Alors, comment se déploie ce langage patriotique? Se manifeste-t-il différemment en période de paix et en période de guerre? Et surtout, comment éviter qu'il alimente la haine ou la division? C'est ce que nous allons voir avec nos invités.
Notre premier invité est le professeur Emmanuel Bagnuet-Cizé. Il est philosophe et enseignant à l'université de Lubumbashi. Bonjour professeur Bagnuet-Cizé et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci de l'invitation.
Nous recevons également Adrien Maguené, journaliste. Il analyse régulièrement l'actualité, les discours publics sur les médias traditionnels ainsi que les réseaux sociaux. Nous disons bonjour à Adrien Maguené.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Merci d'être là.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter notre premier sketch radiophonique. Cette scène se déroule dans un milieu universitaire avec des étudiants qui questionnent l'amour que leur délégué envers l'université. On écoute.
Mais qu'est-ce qu'il y a?
Mais ça craint,
mais
je
quoi,
te dis
parle.
Mais vous trouvez normal que cet étudiant de notre classe va carrément rater les examens?
Ben, c'est pas cool, mais il semble que ce mec n'a pas pu payer les frais académiques.
Mais c'est justement ça le problème. C'est ça le problème, Amani. Cela n'est pas acceptable. Nous avons une caisse sociale qui avait été justement mise en place pour aider ces étudiants se trouvant dans ce genre de situation, non?
Mais c'est vrai, tu as raison.
Tu sais, hein, tout ça, c'est dû au fait que la gestion de la caisse est assurée par des étudiants sans aucun amour pour l'unité et la fraternité au sein de l'université. Point barre.
Non, mais attends, Bouta. On attend ces manies. Facile.
Je dis que ces gestionnaires de la caisse ne sont que des mercenaires obsédés par leurs intérêts personnels. C'est tout. Ils ne pensent qu'à remplir leurs poches. Quoi de plus?
Désolé, Mbouta. Mais le fait qu'il y ait des problèmes dans la gestion de la caisse ne veut pas dire que tous les gestionnaires sont des mercenaires sans amour pour l'université. Tu devrais retirer ce langage.
Non, retirer ce langage.
Oui, tu devrais retirer ça. Je suis d'accord avec Mbouta. Kitou, en tant que gestionnaire principal de la caisse, a trahi la communauté universitaire. C'est juste une démagogue qui ne fait que chanter l'amour de l'université alors que dans son cœur, c'est juste une mercenaire remplie d'avidité. C'est n'importe quoi.
Écoutez, le moment est venu pour que les vrais étudiants qui tiennent vraiment au bien de l'université prennent les choses en main.
Le moment est venu pour que les vrais étudiants qui tiennent vraiment au bien de l'université prennent les choses en main, déclare l'un des personnages du sketch. Alors ma première question est pour vous, professeur Emmanuel Bagnuet-Cizé. Selon vous, qu'est-ce qui pousse les gens à adopter un langage patriotique?
Merci. Alors je pense que ce qui pousse les gens à adopter un langage patriotique, c'est d'abord le sentiment que on se définit par rapport à un territoire, par rapport à un pays, par rapport à une nation. Et Et notre identité est fonction également de cette appartenance à une nation, à un territoire bien donné. Et du coup, les personnes sont amenées à s'attacher à un territoire, à une nation, à un pays, et à se définir par rapport à cela. Et donc, ils sont dans l'obligation d'aimer ce territoire, d'aimer cette patrie et de la défendre. Et de la défendre. Voilà ce que je pense pouvoir avancer comme réponse.
Oui, mais alors, professeur Bagnussis, dites-nous, comment se manifeste ce langage patriotique en période de paix? Est-ce qu'on peut dire qu'il diffère du langage patriotique qu'on utilise en période de conflit?
Je pense que de mon point de vue, il n'y a pas une attitude patriotique, par exemple, en période de paix, et une attitude patriotique en période de conflit ou de guerre. Mm-hmm. En tout moment et en toutes circonstances, un citoyen doit aimer sa patrie. Il doit se dévouer pour sa patrie. Il doit la chérir, il doit la défendre.
Ma question était plutôt au niveau de l'expression de ce patriotisme. Est-ce que l'expression, le langage patriotique est différent en période de paix du langage patriotique qu'on emploie justement en période de conflit?
Bien évidemment, en période de guerre, en fait, il s'agit d'une question de... existentiel majeur qui pèse sur la patrie, et non seulement sur la patrie, mais aussi sur les membres de la communauté historique. Et donc, dès lors qu'il y a une menace existentielle qui pèse sur la patrie, et par ricochet sur les citoyens en tant que membres de la communauté historique, ils doivent développer en fait une communication beaucoup plus responsable, une communication qui leur permette de tisser les vivre ensemble. Parce qu'en période de guerre, les ennemis de la patrie jouent sur les divisions. Mmh. Et ils cultivent la haine pour justement pouvoir exploiter ça. Et par conséquent, les citoyens doivent être soudés, doivent être unis, développer un discours qui fait qu'ils continuent à faire corps ensemble, à solidifier les principes spirituels qui font qu'ils vivent ensemble. Parce que vous savez bien que pour vivre vraiment dans une nation, il faut un principe spirituel. Mais il faut aussi ce désir renouvelé de vivre ensemble. De faire corps ensemble. Et donc, il faut toujours développer un langage là dans ce sens-là pour privilégier ce qui unisse les gens plutôt que ce qui les divise.
Merci, professeur Bagnussisé, pour cette première intervention. Je me tourne vers vous, Adrien Maguené, vous qui êtes journaliste. Comment vous analysez l'évolution du discours patriotique à travers les médias et les réseaux sociaux depuis la résurgence du groupe rebelle du M23?
Merci beaucoup, Babel. Je pense que On est parti de zéro. Si on peut aller sur une échelle de 10, on est parti de 1, peut-être à 8 aujourd'hui, mm-hmm. en termes de surenchère. Ce n'est pas qu'elle soit positive ou négative, mais tout le monde, à un certain niveau, essaye d'exprimer. La plupart des gens ne veulent pas être en reste. Mm-hmm. On a l'habitude que quand les léopards jouent, par exemple, on a une manière d'exprimer le patriotisme à travers le soutien à l'équipe nationale. Les gens, ils vont acheter des maillots occasionnellement. Les gens, ils vont arborer les couleurs nationales occasionnellement. Mais à partir du moment où c'est la guerre, il y a des gens qui ne sont pas coutumiers à être dans les médias, mais qui veulent aller dans les médias pourvu d'exprimer leur soutien. Mmh. Il y a des gens qui s'expriment habituellement dans les médias, mais sur des sujets spécifiques. Mais aujourd'hui, même lorsque vous suivez un programme de sport, les gens ont tendance à parler de la guerre à l'Est. Et ils le font parce qu'ils considèrent que cela est important et que c'est la meilleure manière d'exprimer l'opposition à ce qui à la rébellion, mais aussi le soutien au FARDC et aux autorités qui sont en train de combattre les M23.
Et alors, est-ce qu'on peut dire que au fur et à mesure que la guerre dans l'Est s'enlise, le discours patriotique devient de plus en plus radical?
Bien sûr, malheureusement, parce que il y a cette tendance pour les gens à prendre parti. C'est-à-dire, le discours patriotique a tendance à se greffer sur l'officiel. Mmh. Le gouvernement dit ceci, le gouvernement à adopter tel point de vue ou tel ton sur une question spécifique. Il y a les gens qui veulent, par patriotisme, s'opposer au M23, qui nécessairement s'attachent au point de vue du gouvernement, et ils se retrouvent dans une situation où celui qui ne voit pas les choses du point de vue du gouvernement, il est perçu comme antipatriotique. Et c'est là que la radicalisation commence.
Mmh. Merci Adrien Maguené. Je vous invite à présent à écouter un deuxième extrait de notre sketch radiophonique, toujours avec nos amis les étudiants dans leur campus. Ils découvrent à présent à quel point la rhétorique patriotique, lorsqu'elle est manipulée, aboutit à des dérives. Écoutons.
Je dis, n'écoutez pas cette bande d'usurpateurs dirigée par Mbouta.
Qui est usurpateur?
Vous savez qu'ils n'ont aucun amour pour notre université. Ça, au moins, vous le savez,
toi,
non?
Toi, Kitoko, arrête de nous parler de ton amour pour notre université. Tu n'as de leçons à donner à personne.
C'est ce que tu crois.
Vous reconnaissez que vous avez échoué à gérer la caisse sociale, toi et ces autres étudiants gangrenés par l'égoïsme et l'absence totale de patriotisme.
Ne me parle pas de patriotisme, parce que toi-même, là, tu n'en sais rien.
Toi, tu en sais quelque chose.
Kitoko,
parce que toi tu sais les chanter à longueur de journée, tu penses que tu en sais quelque chose plus que moi.
Merci.
Il est temps de séparer la partie gangrénée pour sauver l'université.
Écoute, nous allons nous retirer de cette caisse sociale dirigée par des corrompus. Oui, il faut une nouvelle caisse digne de ce nom.
Sachez aussi que nous, là, le vrai patriote, ne vous laisserons pas faire.
Ah bon?
Oui.
C'est ce qu'on va voir.
On verra.
Il est temps de mettre en place une nouvelle caisse à vocation résolument humanitaire. Regroupons seulement les facultés dont les étudiants ont vraiment l'amour de l'université. Dans leur veine, c'est ce qu'on doit faire.
Pardon, ne vous laissez pas tromper le gars. Montrez que vous êtes de vrais patriotes. Soyez même prêts à verser votre sang et défendre l'honneur et protéger l'université de cette
Nous sommes prêts à balayer ce vieux système. Mets le banc à veste, je te dis. Ensemble, on va remplacer cette machine brouillée par une nouvelle, capable de tourner rond et servir réellement les intérêts des étudiants.
Toi, tu penses que moi,
ne recule pas.
Montrez que vous êtes des vrais patriotes, soyez même prêts à verser votre sang pour défendre l'honneur et protéger l'université de cette bande d'usurpateurs, martèle l'un des personnages. Emmanuel Bagnoué-Cizé, le langage patriotique part souvent d'une intention noble, celle de défendre les intérêts du pays. Mais à partir de quel moment peut-on dire que la rhétorique patriotique devient dangereuse?
La rhétorique, disons, patriotique devient dangereuse lorsqu'elle dérive vers la haine, vers l'exclusion de l'autre, vers la non-reconnaissance de la diversité, de la pluralité qui constitue les fondements même d'une nation. Et je pense que lorsque on va on dérive vers la haine, vers la xénophobie ou vers l'exclusion, le racisme, vous savez bien que le racisme peut prendre plusieurs formes. Ce n'est pas seulement un racisme épidermal qui consiste à fustiger la couleur de la peau, ainsi de suite, mais elle peut être aussi en fait un racisme fondé sur la tribu, sur l'ethnie. Lorsqu'on discrimine les gens sur base de leur appartenance à telle ou telle autre ethnie, en fait on dérive vers un mauvais patriotisme. Le patriotisme, de mon point de vue, doit toujours en fait faire en sorte que constamment soit soudé les désirs et le vouloir vivre ensemble.
Oui, professeur, vous l'avez dit.
Le patriotisme doit comprendre qu'une nation est une multiplicité d'ethnies, est une multiplicité de peuples, est une diversité d'opinions, et il faut toujours tenir compte de cela. Dès lors que le patriotisme prend cela en compte, en fait, il reste dans les limites du tolérable. Mais lorsqu'il dérive dans la dénonciation tribale de tel ou tel autre individu, dans l'exclusion et dans l'xénophobie, à ce moment-là, on va sur la voie de la dérive et ça peut conduire à une forme de fascisme qui peut justement affaiblir les liens sociaux.
Professeur, vous venez de le dire, hein, le langage patriotique a tendance à devenir binaire au fait, hein, en opposant des citoyens patriotes aux citoyens non patriotes entre guillemets, hein, ou ceux perçus comme des étrangers.
Absolument.
De quelle manière justement cette manière de s'exprimer affecte le tissu social et le vivre ensemble?
Alors ce que moi je pense, c'est qu'il faut précisément sortir de ces binarismes qui opposent nous et les autres, qui opposeraient les vrais citoyens à ce qu'on penserait être de mauvais citoyens. Il faut déjà considérer que lorsqu'on est dans une république, comme c'est le cas de la République démocratique du Congo, lorsqu'on a choisi de vivre dans une république gouvernée selon les principes de la démocratie, il faut justement intégrer l'idée selon laquelle il y aura une pluralité d'opinions et qu'il n'y aura pas un consensus qui mettrait tous les citoyens congolais d'accord sur tous les sujets. Dans tous les cas, la démocratie implique en fait une division, une contradiction sur l'ensemble des sujets. Quels que soient les sujets qu'on peut mettre sur la table dans une démocratie, il y aura toujours de la résistance, il y aura toujours de la contestation. Et ce n'est pas parce que les citoyens, par exemple, ne partagent pas la même opinion que ceux qui ont l'opinion officielle, qu'ils deviennent des mauvais citoyens et qu'ils doivent être traités comme des mauvais citoyens. Dès lors qu'on intègre ça, que la République et la démocratie indiquent ça, alors cela signifie qu'en fait, on éviterait ce binarisme-là de considérer que tel est vrai citoyen, que l'autre est faux citoyen, surtout qu'il n'y a pas de critères précis qui permettent vraiment de distinguer le vrai et le mauvais.
Merci.
Sauf s'il participe d'une logique, par exemple, de trahison de la nation.
Merci, professeur Bagnuet-Cizé, pour ces explications. Je reviens vers vous, hein, Adrien Maguené. En période de crise ou de conflit, comme c'est le cas justement actuellement dans l'Est de notre pays, y a-t-il un risque de manipulation du langage patriotique par des acteurs politiques ou des groupes armés? Si oui, dans quelle mesure?
Je pense que oui. Et c'est aussi un peu ce que nous sommes en train de vivre pour l'instant au pays. Pour moi, la manipulation vient du fait de monopoliser ce qu'on va qualifier comme expression patriotique. Le fait de définir comment on exprime son attachement au pays et de dire à ceux qui n'expriment pas ce patriotisme-là de la même manière qu'ils ne sont pas patriotes. De manière concrète, si aujourd'hui il y a par exemple des gens à qui on demande, dont on exige qu'ils s'expriment en faveur de ceci ou de cela, il y a des gens dont on exige qu'ils expriment le soutien au président de la République. Mais on ne dit pas pour le président de la République, on dit exprimer le soutien au président de la République est une forme de patriotisme parce que nous sommes en période de guerre et que le président de la République, il est le commandant suprême. On est presque sûr que tout le monde n'exprimera jamais officiellement son soutien au président de la République parce qu'il y a d'autres considérations. Il y a des gens qui sont tous derrière le pays, derrière l'armée, pour que l'armée remporte la guerre, mais qui pensent que dans une certaine mesure, l'armée n'est pas mise dans les conditions idoines pour remporter cette guerre et que c'est de la faute du président de la République. À partir de ce moment-là, vous ne demandez pas à ces personnes d'exprimer leur soutien au président de la République. Mais c'est un point de vue. Ils peuvent avoir raison, ils peuvent avoir tort, mais il faut respecter ce point de vue-là. Mais à partir du moment où vous dites à ces personnes que n'ayant pas exprimé leur soutien, n'ayant pas manifesté leur soutien au président de la République, ils ne sont plus patriotes, vous les excluez.
Alors, tout au long de l'histoire, on a vu que lorsqu'il est poussé à l'extrême, la rhétorique patriotique peut aboutir à l'endoctrinement des masses mobilisées par des discours extrêmes venant d'un leader charismatique. Les jeunes sont-ils particulièrement sensibles et vulnérables à ce type de discours? Si oui, avec quelles conséquences?
Les jeunes, bien sûr, parce que la jeunesse, c'est l'énergie, c'est la fougue. Aujourd'hui, on n'entend pas trois discours sans qu'ils ne s'adressent aux jeunes. c'est vous les jeunes, c'est à vous de défendre le pays, c'est votre pays. Mmh. Et donc, il est naturel chez les jeunes de vouloir jouer un rôle dans des moments comme celui qu'on est en train de traverser. Et on sait que les jeunes qui ont moins d'expérience, les jeunes qui ont envie de prouver son patriotisme, il est plus susceptible à consommer un discours. Et il est aussi susceptible à de la manipulation. Donc, on le voit, on a vu énormément de manifestations qui ont été organisées et dans lesquelles l'adresse était directement orientée vers les jeunes. Et on sent qu'à un certain moment, la jeunesse veut s'élever. On sent que, et c'est tant mieux, mais ça devient un problème lorsque, par exemple, un ministre, et vous avez parlé d'un leader charismatique, à juste titre un ministre, à juste titre un parlementaire, qui harangue la foule et qui dit à la foule qu'est-ce qui est patriotique, et qui dit à la foule voici ce qu'il faut faire pour exprimer son soutien au pays, voici comment on exprime son soutien à sa patrie dans le contexte actuel, alors qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord ou qui n'expriment pas ou qui ne manifestent pas leur soutien à la patrie de la même manière. C'est aussi une façon de dire à ces jeunes, tous ceux qui ne font pas comme moi, ils sont contre la patrie. Et c'est à partir de ce moment-là que ces discours deviennent périlleux, parce que c'est plus facile de les distiller, mais ça devient difficile de les retirer.
Merci Adrien Maguené pour cette analyse. Hein. Peu à peu, nous progressons vers la troisième partie de cette émission. Mais avant, écoutons un dernier extrait de notre sketch radiophonique, toujours avec nos amis les étudiants. On va voir comment, après avoir expérimenté les dérives de la rhétorique patriotique, apprennent finalement à utiliser un langage plus responsable, plus nuancé. On écoute.
Arrêtez là, avec vos discours farfelus. Votre langage ne vise qu'à nous jeter de la poudre aux yeux en brandissant un patriotisme des façades.
Nous avions quand même l'obligation de dénoncer la mauvaise gestion de la caisse sociale, non?
Quelle mauvaise gestion? Et vous pensez que la solution serait de fragmenter l'université? Est-ce vraiment ça l'amour pour l'université?
Voilà, c'est pourquoi je disais que ce sont des usurpateurs et que nous, le vrai patriote, devons les combattre.
Ah, attends, c'est qui? Il ne faut pas confondre
les choses. Les vrais patriotes.
Tu penses vraiment que tu as les droits d'attaquer injustement les autres pour soi-disant du patriotisme?
Bon,
écoute. Non, écoute, c'est toi qui vas m'écouter. Au lieu de chercher ensemble des solutions aux problèmes pour bâtir sur des bases qui existent déjà, vous voulez tout diviser, séparer et même tout détruire, soi-disant que c'est au nom du patriotisme. Mais de quel patriotisme que vous parlez là?
En tout cas,
ni comprendre, n'a mal à Djamani Wamba.
Les gars, est-ce que le véritable amour de l'université, le vrai patriotisme qu'on parle là, n'était pas plutôt censé nous unir au lieu de nous diviser?
Aman, toi c'est que je dis là vraiment. Nous avons vraiment failli être induits en erreur. C'est langage d'un bout et Kito qu'on n'a rien de patriotique. J'y réalise que c'est juste de la poudre aux yeux, une distraction organisée pour mettre en valeur leurs intérêts divisionnistes.
Arrêtez tous avec vos discours farfelus. Votre langage ne vise qu'à nous jeter de la poudre aux yeux en brandissant un patriotisme de façade, interpelle l'un des personnages. Des propos qui s'opposent fermement à la manipulation du langage patriotique, Emmanuel Bagnoué-Cizé. De quelle manière, d'après vous, hein, professeur, peut-on promouvoir un langage patriotique qui rassemble plutôt qu'il ne divise?
Moi, de mon point de vue, je voudrais avancer l'idée selon laquelle les dérives que nous vivons constituent quand même un signe de l'échec de notre système éducatif. Alors, je pars du principe qui a été formulé par le philosophe grec Aristote dans l'éthique à Nicomaque, et c'est la cité qui doit éduquer les citoyens. Mais la cité doit éduquer les citoyens aux valeurs, à la diversité, à l'acceptation de la diversité et au vivre ensemble pour pouvoir préserver l'humanité de chacun, mais aussi pour préserver la société. Et donc, cela revient finalement à l'idée que nous devons donner comme tâche à notre système éducatif de former des Congolais qui s'acceptent mutuellement, qui s'acceptent dans leur diversité. Il est impensable, par exemple, que dans notre pays, il y ait des citoyens qui doivent être amenés à justifier leur citoyenneté constamment, des citoyens à qui on renie constamment la citoyenneté et qui se trouvent dans une situation de justification permanente de leur mongolité, de leur citoyenneté. Donc, je pense qu'il revient à notre système éducatif de se réformer sérieusement, d'éduquer les Congolais à être des citoyens et à comprendre que le concept, par exemple, des citoyens, ce n'est pas un concept tribal, ce n'est pas un concept ethnique, c'est un concept juridique. Ce qui fait que je suis Congolais, ce n'est pas tant mon appartenance à une tribu ou à une langue donnée. C'est le droit qui me donne, en fait, qui me donne cette citoyenneté-là. Et cette citoyenneté, je dois l'exercer n'importe où sur le territoire national. Et cette éducation, bien évidemment, doit commencer par la famille, puis doit se poursuivre à l'école maternelle, à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université. Il faudrait qu'on éduque les citoyens vraiment aux valeurs, humaines, à la diversité humaine et au vivre ensemble.
Merci encore une fois, professeur Bagnuet-Cizé. Pour finir, une dernière question pour vous, Adrien Maguené. Quel rôle peuvent jouer les médias, comme vous, les journalistes, les leaders politiques et les citoyens pour encourager un patriotisme inclusif qui finalement valorise la diversité et le respect mutuel?
C'est aux autorités de garantir la liberté. La liberté d'expression qui est un élément très essentiel dans le contexte actuel, parce que pour que le journaliste véhicule un message qui ne soit pas binaire, pour que le journaliste accorde la parole à celui qui soutient le point de vue du gouvernement ou à celui qui embrasse l'approche du gouvernement et à celui qui ne l'embrasse pas, il faut que le journaliste sache que cela ne va pas lui causer du tort. Aujourd'hui, ce n'est pas un acquis. Après, le journaliste, il va adapter sa communication ou son travail au contexte en évitant de participer au clivage. Parce que il y a ceux qui se sentent patriotes et ceux qui se sentent exclus de la définition patriotique officielle et qui vont souvent avoir des discours antinomiques. Mais c'est à ce moment-là que le journaliste intervient, c'est à ce moment-là que le journaliste essaie de les fédérer dans un dialogue plus juste et avec un patriotisme plutôt sain. Ça, c'est le travail que les leaders politiques peuvent faire, ça, c'est le travail que les leaders de la société civile peuvent également faire, mais je pense que ça part du gouvernement.
Merci encore une fois, Adrien Maguené. C'est sur cette note que prend fin cette émission.
Merci.
Pour conclure, Babel, rappelons que le patriotisme, lorsqu'il est bien compris, peut mobiliser effectivement les citoyens pour le bien de leur pays. Mais manipulé ou mal compris, ce langage peut exclure certains, diviser les communautés ou même alimenter des discours dangereux.
En effet, Pauli, tout dépend de l'intention derrière les mots et de la manière dont ils sont compris. Finalement, le défi est de trouver un équilibre, un langage patriotique qui inspire sans exclure, qui mobilise sans diviser, qui défend les intérêts de la patrie tout en respectant les droits et la dignité de tous les citoyens.
Merci à nos invités, le professeur Emmanuel Bagnuet-Cizé et Adrien Maguené, pour vos interventions et vos analyses qui ont enrichi cette discussion. Merci à Alain Goy qui nous a accompagnés du côté de la régie technique. Et bien sûr, merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité et vos commentaires de plus en plus nombreux sur nos réseaux sociaux.
Vous écoutiez C'est le ton qui fait la panique, un magazine proposé par l'ONG La Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi. Retrouvez cette émission en rediffusion samedi 11h05 et 19h05 heure de Kinshasa sur les ondes de Radio Okapi ou en podcast sur www.radiookapi.net et www.abarirdc.net. Dites-nous ce que vous en pensez sur nos pages Facebook et X.
Et surtout, prenez soin de vous et des autres. À très bientôt pour un nouveau numéro de C'est le ton qui fait la panique. Au revoir.
Au revoir.
C'est le ton qui fait la panique.
Une émission de Benevolencia en partenariat avec Radio Capital.